France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
La réforme des retraites est donc suspendue. Rien de neuf là-dedans. On sait depuis le début que ça a été négocié par le PS en échange de la survie du gouvernement. Aucune surprise dans les votes d'un parti à l'autre. À partir de maintenant, le compteur de l'âge légal s'arrête. Donc 62 ans, 9 mois. La suite se jouera en 2027. Fin de la séquence. Bah, allons-y, justement, en 2027. Qu'est-ce qu'on met sur la table à ce moment-là? C'est ici que commence notre conversation de ce soir. L'option 1, bah, on met rien. Aucun candidat ne met l'orteil dans l'eau, tant le sujet est inflammable. Les retraites sous le tapis. On verra avec nos invités, avec vous, bien sûr, si ça a du sens. Peut-être que là, au moins, il y a d'ailleurs un consensus. Est-ce qu'on a les moyens, réellement, de ne rien faire? Ensuite, on peut mettre plein de choses. Est-ce qu'il faut renoncer à l'âge pivot, l'âge qui crispe tant de gens? On sait bien ce que ça provoque de dire 64, de dire 65 et encore plus. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une retraite qui ne se base que sur les années de cotisation? Est-ce que c'est envisageable? Il va y avoir des calculs de décote à faire, fixer comment, qui en sort vainqueur? Est-ce que c'est possible encore une fois? Est-ce qu'on serait contraint d'envisager un jour une retraite par capitalisation, même par étape? Généralement, le mot lui-même provoque les mêmes réactions que les mesures d'âge, notamment bien sûr pour ceux qui n'ont aucun moyen de mettre de l'argent de côté ni travailler assez longtemps pour une grosse entreprise qui peut adosser une capitalisation avec par exemple un plan épargne retraite. Est-ce que c'est le moment de revenir à l'idée de départ, celle de 2019, le fameux système universel, le retour des points en comblant peut-être les trous dans la raquette, et on y reviendra sûrement. Je reviens au point 1, si on décide de ne rien faire, est-ce qu'il y a un autre chemin qu'une augmentation des cotisations? Y a-t-il un système que nous jugerions tous juste, équilibré, quelles que soient les situations particulières? Un système assez évolutif pour qu'on ne refasse pas une réforme tous les deux ans. On ne perd rien à essayer de chercher. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et Gérard, c'est vous le premier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Gérard.
Eh bien écoutez, on ne va pas bouder notre petit plaisir ce soir, parce que ce vote à l'Assemblée, c'est une victoire d'étape, c'est un totem qui a sauté. Le totem qui est qu'on nous explique qu'on n'aurait pas le choix. Ben si, on a le choix. Les Français ont fait partir les premiers ministres, Édouard Philippe, Élisabeth Borne, Michel Barnier, Gabriel Attal. Les Français ne veulent ni de retraite à points, ni de retraite par capitalisation. Ils veulent une retraite par répartition. Et donc, il est hors de question de ne rien faire, bien au contraire. Il faut chercher des financements autres que simplement augmenter les cotisations. On va revenir dans le débat taxe Uxmann ou autre, et on va revenir sur le... Que de temps perdu, hein, vous allez me dire, mais on va revenir sur le débat fondamental qui est comment une société moderne, avancée, s'adapte au vieillissement de sa population. Voilà, il y a des décisions à prendre. Simplement, que de temps perdu. Quoi, voilà.
Mais alors du coup, pardon, excusez-moi Gérard, mais si on n'augmente pas les cotisations, est-ce que, et j'imagine qu'on ne remonte pas l'âge non plus, c'est ce que j'ai compris évidemment en vous écoutant, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend le risque aussi d'avoir des pensions qui seront moins importantes?
Ben non, il faut chercher des financements. Il y a des propositions là-dessus. On a beaucoup parlé de la taxe Uckmann, maintenant on n'en parle plus parce qu'elle a été rejetée, mais ça va forcément revenir dans le débat. Les cadeaux faits aux entreprises, ça est un vrai sujet qui va revenir dans le débat. Et puis il y a aussi le débat, j'ai entendu cet après-midi notre pauvre ministre du Travail qui pleure parce que le MEDEF ne veut plus jouer avec lui. C'est vrai que le MEDEF ne veut pas de discussion avec les organisations syndicales pour parler du travail. Comment se passe le travail? Qu'est-ce qui fait que les gens sont cassés à partir d'un certain âge? Le MEDEF est très réticent à rentrer dans le jeu des négociations. Il va bien falloir qu'il revienne à la table des négociations pour discuter du travail.
Voilà, merci Gérard, merci beaucoup. Merci pour cette entrée en matière. Vous n'êtes pas tout seul là-dessus. Et j'entends bien qu'on aura beaucoup d'auditeurs qui disent oui, il faut y travailler, mais on va dire en douceur, le plus en douceur possible pour en discuter autour de la table avec nous. Il y a Éric Veil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez écrit Retraite, un blocage français. C'était l'année dernière. Vous êtes ancien conseiller ministériel de Laurent Pietraszewski. C'était le secrétaire d'État en charge des retraites entre avril 2021 et mai 2022.
Le livre a été publié il y a un mois.
Oui, il y a un mois, pardon. J'ai dit un an. Oui. Excusez-moi. On est donc en 2025. Oui. Ah, bah, écoutez, pardon, excusez-moi. On y viendra probablement, puisqu'on si on vient sur différents modes et différentes idées sur les retraites, celle qui tourne en ce moment, en tout cas du côté de Gabriel Attal, c'est inspiré aussi de ce que vous avez écrit dans ce livre paru il y a un mois. Christelle Thieffine est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale de la protection sociale à la CFE-CGC. Il y a également Marc Vigneault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste économique à l'Opinion. Quand on dit, vous parlez de blocage français, Éric Veil, et quand on entend notre ami Éric, c'est ça qu'on entend en fait. On a l'impression que le seul pas en avant qu'on a fait, c'est, oui, on a bien compris que c'était compliqué, qu'il y avait un jeu sur la démographie dont on n'avait pas trouvé la clé pour l'instant, mais surtout, ne touchez pas à ce que nous avons, ne touchez pas à ce sur quoi on est, ce qui nous est tellement cher, qui est la retraite par répartition. C'est là-dessus que ça se joue, non, Éric Veil? Va être difficile de dire à Éric, vous savez quoi, il y a d'autres solutions.
Monsieur a évoqué un totem.
Ouais.
Il a dit que la réforme Borne, c'était un totem. D'une certaine manière, c'est vrai. Moi, je crois qu'à gauche, il y a un autre totem qui est la retraite à 60 ans, qui, dans l'imaginaire collectif, continue à beaucoup jouer.
C'est-à-dire plus dans les programmes.
Ce n'est plus dans... Enfin, si, LFI, c'est dans leur programme. Et je pense, dans l'imaginaire collectif, il y a toujours l'idée que ce droit acquis dans les années 80, aux yeux de la population, est un droit inaliénable et il est scandaleux de vouloir revenir dessus. Et donc, il y a toujours l'idée que demander plus, revenir sur ce droit, ça serait socialement, politiquement inacceptable. À droite, il y a aussi des totems, des tabous. Je pense qu'un des tabous, c'était la contribution des retraités, qui serait une manière de rééquilibrer le système. Monsieur, je crois, ne l'a pas évoqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, on a un sujet très délicat qui est celui de l'âge. De l'âge couperet, en l'occurrence, on cristallise énormément le débat sur l'âge d'ouverture des droits. Alors qu'en réalité, pour équilibrer un système de retraite, il y a plein de leviers possibles. Il y a bien sûr l'âge d'ouverture des droits, mais il y a aussi la durée de cotisation, le barème des cotes sur cotes, des adaptations de la formule de calcul, etc. etc.
On va y venir, Christelle Thieffine. Est-ce que ça a du sens, puisqu'on le voit venir ici et là? Et parce que c'est là, effectivement, quel point d'achoppement, de se dire, ok, l'âge, on enlève, en fait. On ne tient que sur la durée de cotisation. Ça a un sens ou pas?
Pour la CFE-CGC, en fait, ce qui a du sens, c'est de donner la liberté, l'autonomie aux personnes de pouvoir partir quand elles le souhaitent à un certain âge. Et donc, il y a effectivement ce système, en fait, qui est très spécifique français, où on a à la fois un âge et on a une durée et qui fait un système en fait qui est très contraint et qui fait que la réforme de 2023 a été très injuste pour un certain nombre de populations qui vont être amenées, parce qu'on recule l'âge de départ en retraite, de faire beaucoup plus d'une durée de cotisation qui est beaucoup plus longue que d'autres. Et donc ça, c'est une vraie problématique française et qu'il va falloir remettre sur la table.
Mais je voudrais reposer ma question. Est-ce que ça s'envisage? Est-ce que ça s'est calculé déjà peut-être, Marc Vigneault? Chiche, on enlève l'âge. Parce qu'on voit bien que le point d'achoppement, c'est celui-là.
Alors, moi, c'est exactement ce qui me gêne dans ce débat. C'est qu'on a l'impression qu'une fois qu'on s'est débarrassé de l'âge, quelles que soient les bonnes ou les mauvaises raisons, on va trouver un système beaucoup bien meilleur, miraculeux. Ce qu'il faut, en fait, ce système de retraite, il est extrêmement complexe. Et quand on regarde la durée de cotisation, ceux qui n'arrivent pas à valider cette durée de cotisation la plus longue, c'est ceux qui ont des carrières hachées, qui ont souvent des métiers pénibles, qui n'arrivent pas à rester en emploi de manière continue, et donc ils doivent aller jusqu'à ce qu'on appelle l'âge d'annulation de la décote, à 67 ans. Donc en fait, cette idée que l'âge, c'est injuste parce que ça oblige les gens qui ont commencé à travailler tôt à poursuivre leur carrière de manière obligatoire, par opposition à la durée de cotisation qui est, elle, beaucoup plus juste parce que tout le monde cotise la même durée à la fin, et ça favorise les cadres, enfin, et ça touche les cadres puisqu'ils doivent travailler plus longtemps. Et en fait, elle n'est pas juste. En fait, il y a des gens en début de carrière qui ont commencé, surtout pour les générations dont on parle, qui ont commencé à travailler tôt, mais ce sont des cadres. Ce sont des gens qui n'ont pas du tout des carrières pénibles. Et d'ailleurs, on a créé un dispositif qui s'appelle carrière longue, avec les meilleures intentions
du monde
au début.
C'est pas les cadres, pardon, qui sont le plus dans les carrières longues, Marc Vigneault.
Pardon ?
C'est pas les cadres qui sont le plus dans les carrières longues.
Et en fait, contre-intuitivement, il y a beaucoup de cadres. Il y a des polytechniciens même qui cotisent pendant leurs études. Bon, ça, c'est un peu un cas caricatural. Mais en fait, paradoxalement,
c'est un peu une niche quand même.
Il y a des études, l'adresse a montré que les gens qui sont en carrière longue, ce ne sont pas les gens qui ont les métiers pénibles, ce ne sont pas les gens qui ont les pensions les plus faibles quand ils arrivent à la retraite. Et en fait, donc on construit des récits qui sont fondés sur des choses, des approximations. C'est un peu l'intuition que si on a commencé à travailler tôt, on devrait être le privilégié du système, on devrait avoir des aménagements. Et en fait, le problème, c'est que la réalité est tout autre. Et donc, si on se dit, on va se débarrasser de l'âge légal, c'est formidable, on va avoir un critère beaucoup plus juste, en fait, je dis warning, non, pas du tout. Et il y aura des problèmes avec les autres critères également. Il n'y a pas de critères parfaits qui permettent de faire une justice sociale incroyablement parfaite. En fait, quand on vous, quand on
donc vous dites que le système sera toujours France, injuste d'une manière ou d'une autre en fait.
Bien sûr, la France a un problème de taux d'emploi par rapport à nos pays européens. On ne travaille pas assez quand on est à la retraite et on observe que de 55 à 59 ans...
On ne travaille pas assez quand on est à la retraite.
Pardon, on ne travaille pas assez, pardon, quand on, avant la retraite. On ne travaille pas assez, les seniors ne poussent pas assez loin leur carrière. Et quand on regarde de 55 à 59 ans, la France est dans la moyenne européenne. Qu'est-ce qui se passe? On a permis aux gens de partir beaucoup plus tôt que les voisins européens, et les gens sont partis plus tôt. Et donc, on n'a pas de retard, on a un retard que de 60 à 64 ans. Et donc,
attendez.
La démographie qu'on a, je vois mal comment on pourrait s'extraire d'une réalité qui s'impose à tout le monde.
Deux choses, pardon Marc Vigneault, vous reprendrez la parole, je vous promets. Il y a beaucoup de choses. Christelle Thiéfine, notamment. D'abord, il y a toujours cette idée... moi, j'ai l'impression, pardon, vous parliez d'idées reçues tout à l'heure sur la durée du travail, etc. Les pays européens font tous différemment, et d'ailleurs, les âges sont beaucoup trop hauts. Est-ce que là aussi, on n'est pas quand même dans une sacrée idée reçue? On a tous des systèmes qui sont extrêmement différents. Nous avons des âges, par exemple, chez les Allemands, chez les Italiens, qui sont à 67 ans, mais vous avez une durée de cotisation qui est beaucoup plus basse, qui est autour de 35 ans.
Fin, il faut regarder l'âge effectif de
mais
départ.
Alors justement,
L'âge effectif de départ vous dit que les Allemands partent un peu plus tard que nous à la retraite, de l'ordre de 1 an et demi, je parle sous le contrôle d'Eric. Et voilà. Donc en fait, c'est ça le gap, si j'ose dire,
s'il vous plaît,
l'écart.
Pardon. Et nous partons aussi beaucoup, un peu plus tard en général que les 62 ans qui étaient inscrits jusqu'à présent avant la retraite.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'âge réel de départ en retraite. Et finalement, les statistiques. Et finalement,
ils sont au-dessus de 62, on est d'accord avec ça.
Voilà, effectivement. Donc en France, les dernières données qu'on a, c'est qu'on part en retraite à 63,4 ans. Donc ça, c'est une moyenne. Donc la moyenne, c'est personne. Et finalement, quand on regarde au niveau européen, c'est 63,6. Donc finalement, on n'est pas éloigné des réalités européennes.
Allez, retour au standard. Johan nous y attend. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Merci de prendre ma question, qui est peut-être aussi une réflexion. En fait, moi, je suis maître dans mon bâtiment. Je suis un petit employeur, j'ai 2 salariés. Et c'est vrai que l'allongement de l'âge de départ à la retraite, c'est quelque chose qui, pour moi, est insensé. En fait, alors évidemment, on a beaucoup d'entreprises autour de nous dans le bâtiment. Il y a des questions de pénibilité, mais au-delà de ça, je me demande, moi, si j'ai envie d'avoir des salariés, à un moment donné, qui vont devoir tirer encore plus longtemps. Est-ce qu'ils seront encore motivés, encore dans la réalité du monde du travail? Et je vois dans mon entourage, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui approchent de l'âge de départ à la retraite, qui sont lessivés, qui n'ont plus envie d'y aller, qui sont pour partir en arrêt. Alors, évidemment, ça marche pas pour tout le monde. Nous, on a une profession, pour le coup, on est dans des bureaux, on peut tirer un petit peu plus longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui le font, qui effectivement partent plus tard que les autres. Mais bon, globalement, je pense que la plupart des métiers, en fait, arrivent quand même lessivés au départ à la retraite. Et le repousser l'âge légal, franchement, est-ce que ça va pas faire exploser les arrêts maladie de fin de carrière, et comment ça va être géré, d'autant plus qu'il va y avoir quand même aussi toutes les autres générations à faire travailler dans un marché de l'emploi qui va être aussi bouleversé par l'arrivée de l'IA. Et à un moment donné, c'est bien de vouloir faire bosser tout le monde plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, mais est-ce que vraiment il y aura du job pour tout le monde, quoi?
Merci beaucoup Johan pour votre question. Et c'est vrai qu'on a l'impression, Eric Veil, qu'il y a deux choses dont on n'arrive pas à faire le tour. En fait, il y a l'emploi des seniors, ça c'est une chose. Vous disiez qu'il y avait des gens qui effectivement ne travaillaient pas aussi longtemps qu'ils le pourraient, mais il y a aussi un nombre, quel est le pourcentage d'ailleurs, vous allez m'aider là-dessus, mais enfin de seniors qui sont au chômage en arrivant à la retraite, il y en a beaucoup, donc l'emploi des seniors jusqu'au bout de la carrière. Et puis la question de la pénibilité, parce que c'est celle-là que pose Johan également. Si on arrive complètement exténué à la retraite, évidemment, je peux comprendre, il a une entreprise de bâtiment.
Tout à fait.
Donc est-ce que ce n'est pas les deux questions à lesquelles on ne sait pas répondre?
Je pense que cette question renvoie, la question de la pénibilité, à un des angles morts de nos politiques sociales en France, qui est la question de la prévention. Contrairement à des pays nordiques, à l'Allemagne par exemple, on ne met pas du tout assez l'accent en France sur la prévention. On met beaucoup l'accent sur la réparation de la pénibilité, qui est en fait extrêmement complexe. Comment on mesure exactement la pénibilité, comment on compense, etc. Alors que d'autres pays nordiques, Allemagne notamment, mettent beaucoup plus l'accent sur la prévention. Très concrètement, la prévention, c'est l'adaptation des postes de travail, c'est le temps partiel en fin de carrière pour pouvoir prolonger et rester, faire une carrière complète en bonnes conditions jusqu'au bout, c'est des formations continues pour aller sur des métiers pénibles, etc., etc. Et donc la raison du mauvais emploi des seniors en France. Je pense que la première raison, il ne faut pas se leurrer, ça reste notre système de retraite qui, en moyenne, est plus généreux que les autres. Un point par rapport à
en
ce chiffre, que vous
venez
vous
avez dire. Raison, 14% du PIB, ça c'est plus haut. On faisait les comparaisons avec les voisins, faisons la comparaison jusqu'au bout. Effectivement, là, on est plus généreux.
Ouais. Et contrairement à une des idées reçues que vous avez un petit peu évoquées, en réalité, les études de la Cour des comptes et de l'Adresse montrent que le passage directement de l'emploi à la retraite, ça concerne quand même 70% des gens. Mmh. 70%. 30%, les restes, c'est chômage, inactivité, invalidité, etc. Mais donc la première raison du mauvais taux d'emploi, c'est un système de retraite qui permet de partir globalement plus tôt que les autres pays. J'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que madame, moi j'ai un écart d'un an en moyenne avec la zone euro, premièrement. Et deuxièmement, on ne fait pas assez d'efforts pour maintenir les seniors en emploi jusqu'au bout. Et pour moi, ça renvoie au sujet de la prévention.
Donc ce que ça veut dire, c'est que en fait, est-ce qu'on ne peut pas se dire là, puisqu'on a quoi, un an et demi devant nous, est-ce qu'on ne peut pas se dire là que c'est le moment de combler ces trous dans la raquette? Mais et je vois que vous dites oui avec la tête, Christelle Thiéfine, mais c'est vrai que c'est les mêmes trous dans la raquette depuis X temps, comme si on ne s'en était finalement jamais occupé, et qu'effectivement, bah, on préfère faire une bonne vieille mesure paramétrique, parce que finalement, c'est tellement plus facile. Est-ce que c'est ce qui fait rentrer l'argent dans les caisses?
Mais en tout cas, le sujet, vous l'avez pointé du doigt, c'est la question de mettre le sujet sur la table, du travail, de l'emploi. Ce sont les thèmes de la conférence sociale qui va s'ouvrir. Mmh. Et c'est une conférence qui aurait dû avoir lieu en 2023 avant d'avoir fait une réforme. Donc de mettre ces sujets de pénibilité, d'usure. Moi j'insiste aussi parce que souvent on parle de la question de la pénibilité physique. Oui, évidemment, elle existe, elle est très forte dans beaucoup de métiers. Mais il y a aussi la question d'être en capacité psychique, psychologique, de continuer à travailler. Mmh. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui qui n'est pas adressée. Et moi, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de responsabilités. Et dans les idées reçues, je suis dans un bureau, je suis capable d'aller travailler très très longtemps. Eh bien, ce n'est malheureusement pas le cas. Et il faut aussi s'y attacher.
Allez, pardon, vous n'aviez pas fini, excusez-moi.
Et moi, après, j'allais dire sur aussi la projection finalement de salariés seniors, alors on dit expérimentés maintenant, qui ne sont plus en capacité de travailler très longtemps. Il y a aussi les employeurs aujourd'hui qui n'en veulent plus. Il y a beaucoup d'entreprises, nous on négocie dans les entreprises des accords seniors, parce que les entreprises ne veulent pas garder leurs seniors et les salariés expérimentés. Et donc, c'est quand même la réalité. C'est-à-dire que
c'est
on a notamment.
J'ai l'impression qu'on a eu ce débat de manière incessante depuis plusieurs années. Retour à l'âge à nouveau, ce sera pour vous, Marc Vigneault. Et c'est vous, François-Xavier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir. Je suis un peu surpris parce que je vois que la question a déjà été abordée. Je suis toujours surpris depuis qu'on parle du départ à la retraite, de la fin d'activité, qu'on se focalise encore sur... Bon, ce soir, ça change un peu. Sur l'âge de départ à la retraite, on a parlé de 62 ans, de 64, voire de 67 ans. Pourquoi est-il si difficile d'envisager qu'on ne tienne pas compte de l'âge de départ, mais uniquement de la durée des cotisations? Je pense par exemple à quelqu'un qui commence sa carrière très tôt, à 16 ou 17 ans en apprentissage, par exemple dans le BTP comme maçon. À 57 ans, au bout de 40 ans de bons et loyaux services, il est usé. Il est temps qu'au bout de 40 ans, il arrête de travailler, qu'il puisse profiter un peu de sa retraite. En revanche, la personne qui fait des études relativement longues, je pense à un médecin, qui commence son activité à 27 ou 28 ans, peut-être que lui, il peut envisager de travailler jusqu'à 67 ou 68 ans, parce que physiquement, peut-être psychologiquement aussi, il sera moins usé. J'ai une illustration pour ça. J'ai perdu mon médecin traitant il y a quelques... Moi, je suis une personne âgée. Non, j'ai 68 ans. J'ai perdu il n'y a pas longtemps mon médecin traitant qui avait une...
Personne âgée, vous avez dit, à 68 ans?
Oui, bah, je me considère
comme... Vous avez choqué la moitié de la maison, mais je vous en prie, François-Xavier, continuez.
Ah oui, attends, je peux même dire mieux que ça, je me considère comme vieux. Ça veut dire que je suis mort. Mais ceci dit, bon, mon jeune médecin de 40 ans, il a rendu l'âme. Non, il a démissionné, il a quitté son boulot. Et là, il a été remplacé par un monsieur encore plus vieux que moi, un médecin à la retraite qui a repris son activité à 72 ans et qui est en pleine forme. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une question d'âge. Enfin, pour moi, se focaliser sur l'âge de départ à la retraite est une erreur. Il vaudrait bien mieux considérer le nombre d'années d'activité.
Merci beaucoup, François-Xavier. On y retourne, effectivement, Marc Vigneault. Mais c'est vrai que, c'est marrant, il y a beaucoup d'appels là-dessus. Là, François-Xavier nous cite celui qui a commencé à travailler à 16 ans en apprentissage. On a ici, je crois que c'est Antoine sur WhatsApp qui nous dit, mais voilà, on commence à travailler autour de 23-24 ans. Si on a un travail plutôt assis, plus 43 ans, ça fait de toute façon 65-66 ans. Donc, on est passé au-delà de ce fameux âge. Donc, ceux qui sont les plus pénalisés, en fait, par cet âge-là, par ces 64 ans, bah, c'est plutôt celui qui a commencé à travailler tôt, parce qu'il faudra bien qu'il lâche qu'à l'âge pivot. Moi, personnellement, de toute façon, à l'âge pivot, j'aurais pas les années, donc il faudra bien continuer.
Alors, j'ai du mal m'expliquer tout à l'heure, parce que effectivement, c'est exactement l'image qu'on peut avoir. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée que ça, parce que on a cette image d'Épinal de la personne qui a commencé à travailler très tôt, qui a fait un métier pénible, etc. Mais en fait, ces personnes-là, elles sont dans le dispositif carrière longue, elles peuvent partir plus tôt. Il y a des exceptions pour les personnes qui sont plus en état de travailler, on leur dit vous pouvez partir plus tôt. En fait, dans la réforme d'Elisabeth Borne, il y avait 4 personnes sur 10 qui pouvaient partir plus tôt que l'âge de 64 ans. Et paradoxalement, la durée de cotisation ne frappe pas que ceux qui ont commencé à travailler tard, qui ont fait des études bac plus 5, en gros la caricature de la personne qui a fait, enfin ça existe évidemment, mais la personne qui a fait bac plus 5 à laquelle on rajoute 43 ans de cotisation et qui partirait à peu près vers 66-67 ans. Ça touche aussi paradoxalement les carrières, c'est ce que je disais tout à l'heure, hachées, c'est-à-dire celles qui n'arrivent pas à valider leur trimestre, qui ont des boulots précaires, qui ont des problèmes de santé, et en fait, ceux-là doivent travailler jusqu'à l'âge d'annulation de la décote, voire parfois plus longtemps, jusqu'à 67 ans. Et donc, j'essaie d'expliquer aux auditeurs que cette image qu'ils ont, en fait, n'est pas détaillée, n'est pas confirmée par les études. Et donc, c'est un peu plus complexe que l'âge légal de départ, c'est injuste, et la durée de cotisation, c'est un super critère. Et on pourrait même rentrer dans plus de complexité, mais il y a des gens qui ont commencé à travailler tôt, qui au final ont la même espérance de vie qu'une personne qui a commencé à travailler un peu plus tard, et en fait, cette personne va passer plus de temps à la retraite, et donc on va lui servir une pension pendant plus longtemps. Donc en fait, c'est plutôt quelqu'un qui bénéficie du système, puisqu'il a le même nombre d'années de cotisation que la personne qui a commencé à travailler plus tard. Et à la fin, il bénéficie de sa pension pendant plus longtemps. Je ne sais pas si je suis claire.
Mais vous l'êtes absolument. Ne vous inquiétez pas, Marc Vigneault. La question que je me pose, en fait, Éric Weill, c'est, on en est là, est-ce qu'il n'y a que trois options, en fait, qui seraient effectivement une option d'âge, une option d'augmentation des cotisations ou une option de baisse des pensions? Est-ce qu'on peut être plus imaginatif que ces trois options-là, au fond, qui sont, la solution de facilité, finalement, non ou pas?
Je pense qu'une option qui est plus systémique, c'est d'abord penser à un nouveau système universel, puisque là on parle des critères qui concernent en particulier le régime général, mais en réalité on a une quarantaine de régimes en France avec des règles différentes. La plupart dans les règles sont indexées sur le régime général, mais avec des droits qui sont comptés différemment, parfois en points dans le régime complémentaire, etc. Donc déjà, cette solution du régime universel de retraite permettrait déjà de résoudre, à mon avis, des problèmes d'équité, de lisibilité entre les professions. Premièrement.
Essayez en 2019, parce que c'est ça que ça disait, la retraite par points, on faisait matcher, si je puis dire, les 42 régimes, très très mal perçu, très mal amené, beaucoup trop dans la raquette. Voilà, je vous laisse poursuivre.
Je pense qu'il y avait des faiblesses dans ce projet, j'en citerai trois. La première faiblesse, c'est qu'on comptait en points, ce qui a suscité énormément d'inquiétude, parce que les gens se demandaient finalement ce que ça valait, ce point.
Et personne n'a jamais su expliquer comment serait calculée la valeur de ce point.
D'où l'idée que je présente dans mon livre d'un système universel qui compte les droits en euros directement, des euros acquis, qui sont ensuite accumulés, revalorisés d'année en année. Il y avait un deuxième angle mort, je pense, plutôt une deuxième faiblesse de la proposition d'il y a 5 ans, c'était le mode de transition. On choisissait de basculer tous ceux qui étaient à au moins 15 ans de la retraite, donc une grosse partie des actifs, basculer dans le nouveau système. Donc on avait toute une partie des actifs qui étaient affiliés à l'ancien et au nouveau système, ce qui a créé beaucoup d'inquiétudes. Et puis aussi, assez tardivement, ce qui a conduit à la perte du soutien de la CFDT, a été introduit l'âge pivot, à très court terme, hein, même dans l'ancien système, qui a ajouté une autre dimension paramétrique qui a mis un peu le bazar. Mais si on pense à un nouveau système universel en euros, que pour les nouveaux entrants, déjà, ces faiblesses-là sont effacées.
Donc ça veut dire que si on enlève l'âge, il faut changer le système. On ne peut pas enlever l'âge dans le système actuel, si je vous suis bien.
Alors si, on pourrait. Alors, on pourrait toujours, dans le système actuel.
On a bien entendu de
rebondir sur un point de Marc Vigneault. Je pense que l'équilibre à trouver qui est très très complexe, d'avoir à la fois un système qui remet beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire un système à la carte où les gens peuvent partir un petit peu quand ils veulent. En tout cas, s'ils partent trop tôt, ils ont une petite pension et ils sont très incités à partir plus tard parce qu'à la fin, il faut augmenter l'âge effectif de départ à la retraite pour augmenter le taux d'emploi
des
seniors.
Ça veut dire qu'on partirait avec une retraite importante, finalement, avec un nombre d'années de cotisation qui est assez proche de ce que nous vivons là aujourd'hui.
Si on rabaissait, voire on supprimait, comme le propose Gabriel Attal, l'âge d'ouverture des droits, pour équilibrer le système, il faudrait du coup augmenter. Une des solutions, ça n'est pas la seule, c'est d'augmenter la durée de cotisation. Et en effet, ça poserait problème pour des profils en particulier qui sont les carrières hachées, comme Marc l'a très bien expliqué. Mais pour contrecarrer cet effet, on peut aussi, dans le même temps, rabaisser l'âge d'annulation de la décote à 66 ou 65 ans, alors qu'aujourd'hui c'est à 67, pour que les plus précaires ne soient pas trop affectés par ce type de mesure. Donc on peut trouver un équilibre entre plus de liberté, inciter à travailler plus, mais protéger les plus précaires.
Revenir, retravailler, Christelle Thiéfine, sur la retraite à points, vous à la CFE-CGC, vous dites chiche, vous dites oh là là, ça a été une usine à gaz, j'en y retourne pas.
Alors, nous on est prêts sur les sujets à points, puisqu'on est à l'origine de la création de la GIRC, en 1947. Donc c'est un sujet qui ne nous fait pas peur. Par contre, le sujet de la réforme de 2019, elle ne tenait pas la route. La problématique, et je veux le redire ici, de nos systèmes de retraite, c'est un problème de financement. Ça a été dit par le rapport de la Cour des comptes. Donc si on ne change pas et qu'on ne résout pas ce problème de financement dans le régime, on peut changer d'outil. Le sujet sera toujours le même, il manquera des financements et on aura juste une répartition des retraites qui ne seront pas les mêmes. Donc on aura dans un nouveau système des gagnants et des perdants. Et donc évidemment les gagnants seront contents, les perdants seront mécontents et en fait on comptera les comptes. Donc on fera le bilan au final. Donc évidemment dans un système comme ça, nous on est prêts aux discussions. Mais alors ce qu'il faut absolument faire, c'est faire un état des lieux et regarder l'impact. Donc faire une étude d'impact, ce qui n'avait pas été le cas en 2019. Donc nous on l'appelle de nos voeux pour commencer à étudier. Mais forcément, si on ne fait pas ce pas de côté économique, on aura toujours une problématique, il y aura des gagnants, des perdants. Et le sujet, c'est toujours le même, la question du taux d'emploi, du travail et du travail.
Christelle Thiéfine, vous êtes secrétaire nationale de la protection sociale à la CFE-CGC. Éric Veil, vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « Retraite, un blocage français ». Marc Vigneault, vous êtes journaliste économique à l'Opinion. Et vous, Sophie, vous restez sur la conversation des points et vous êtes avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Pardon, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je voulais témoigner en tant que profession libérale parce que souvent c'est un délaissé dans toutes les émissions qui parlent de ce genre de sujet. Donc je suis profession libérale, donc j'ai une retraite à points. Et il faut bien comprendre que il y a un petit problème pour les petits professionnels en profession libérale, c'est que la retraite à points est limitée à 400 points par an. Donc les années où vous gagnez beaucoup parce que vous avez touché beaucoup d'honoraires, où vous pourriez bénéficier de 800 points, ben vous vous retrouvez avec 400 points. Et les années où les honoraires ont été décalés dans le paiement par rapport aux années où vous avez travaillé ou parce que vous avez eu moins de projets, vous vous retrouvez avec 200 points. Donc on se retrouve à la fin à prendre une retraite où il nous manque je ne sais combien de trimestres et où, bien sûr, faut bosser jusqu'à 67 ans pour avoir le taux plein. Et je ne comprends pas ce système, je ne trouve pas d'équité, si vous voulez, dans ce calcul de retraite à points qui est de plus en plus le sujet pour tout le monde. Comment on peut faire ? Je veux dire, les années où j'ai bossé 75 heures par semaine, on m'a limité mon temps de retraite et les années où j'ai pas eu beaucoup de boulot, donc c'est pas une histoire d'heures, c'est une histoire d'honoraires, j'ai 200 ou 100 euros et je me retrouve à la fin avec un...
On a compris aussi du coup que ça vous obligeait à avancer plus. Est-ce que cependant, Marc Vigneault, l'idée de tout remettre sur le tapis, vraiment de faire table rase, de revenir au point où un autre système, en tout cas celui qui était sur la table à ce moment-là, est-ce que ça existe, ça, réellement ? Est-ce qu'on est capable de faire ça dans le temps qui nous reste d'ici à 2027, à votre avis ?
Ah non, alors là, la réponse est simple, c'est non.
Merci, au revoir.
Non, mais bien sûr que non. On peut évidemment préparer le débat. Moi, je trouve que c'est un très beau débat. Ça me paraît être quelque chose qui peut être intelligent, qui peut être bien fait. Mais en fait, le problème de ces systèmes, c'est que dès qu'on rentre dans le détail, comme on vient de le dire, on rentre dans la complexité. Oui. Il va y avoir des gagnants et des perdants. Donc, il faut expertiser ça de façon très, très fine. Et ça ne peut être qu'un débat de campagne présidentielle. On peut évidemment le préparer. Mais d'ici 2027, il ne faut pas se faire d'illusions.
Ah non, mais je ne parlais pas d'ici 2027. Même de toute façon, est-ce qu'on est même prêt ? Enfin, moi, je me souviens, avant la réforme de 2019, dans mes souvenirs, il y avait eu 18 mois de préparation. Exactement, merci beaucoup, qui était à ce poste-là. Ça n'avait pas empêché, effectivement, les difficultés derrière. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on y est prêt ? Est-ce qu'on a envie d'avoir cette discussion-là ? Est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est votre sentiment, que, en effet, pour qu'il y ait plus d'acceptabilité, il faudra en passer par cette table rase-là.
Oui, moi je pense, enfin ce que je constate, moi, quand je parle à des responsables politiques, c'est de plus en plus, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils vous expliquent que ce n'est plus possible de passer par une réforme qui est centrée sur ce qu'on disait, sur l'âge légal. Ils vous disent tous, on va essayer de trouver un moyen de contourner. Moi, là où je suis un petit peu sceptique, c'est que je leur dis, mais attendez, vous allez avoir des difficultés, il n'y a pas de remède miracle, etc. Il faut que vous en soyez conscients. Mais en tout cas, effectivement, c'est une idée qui monte de plus en plus dans la classe politique. L'âge légal, c'est un chiffon rouge pour les gens, il va falloir essayer de faire autrement. Moi, ce que je voudrais quand même essayer de dire aux auditeurs, c'est qu'il n'y a pas de miracle dans un système par répartition. Si vous vivez plus longtemps, s'il y a moins d'actifs pour financer plus de retraités, à la fin, soit vos pensions vont baisser, soit vos cotisations vont augmenter, soit vous allez travailler plus longtemps. Et après, vous posiez la question, est-ce qu'il y a des ressources est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent ailleurs ? Oui, on peut aller chercher de l'argent ailleurs, on peut toujours aller chercher de l'argent ailleurs, mais croire qu'il suffirait de faire payer les riches ou de faire payer le capital pour financer le système, à mon avis, ça me paraît assez dangereux, d'autant que les partis qui le proposent ces ressources pour des tas d'autres politiques, pour payer la transition écologique, pour faire de la redistribution. Et donc, un système par répartition, c'est quand même des cotisations, normalement, qui payent pour des pensions des gens qui sont, au moment où ils payent leurs cotisations, à la retraite.
Voilà, puisqu'on parlait de chiffon rouge tout à l'heure, il y en a un autre. Bonsoir, Mehdi.
Bonsoir.
On vous écoute.
En fait, moi, le constat, il est simple, c'est qu'on a à peu près un an et demi devant nous avant la prochaine présidentielle et peut-être qu'il est temps de réfléchir un petit peu plus largement que simplement en termes d'âge de départ et de cotisation et s'inspirer de ce qui peut se faire dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, où en fait on a deux systèmes parallèles, tous les deux basés sur des cotisations obligatoires par ailleurs. Un premier avec une cotisation pour une retraite par répartition, comme on l'a actuellement en France, mais à la différence que cette retraite par répartition ne fait pas porter sur la répartition les plus grosses pensions. On a une pension fixe, issue de cette première cotisation, ce qui permet justement du coup de faire ce que fait le mieux la répartition, c'est-à-dire avoir une couverture sociale et éviter que des gens se retrouvent dans le dénuement à l'arrivée à la retraite, et ensuite avoir un deuxième pilier ou une deuxième pension par capitalisation, par ailleurs pas une capitalisation privée, mais des fonds étatiques qui sont réinvestis dans l'économie réelle du pays, plutôt quelque chose qui permet de relancer la croissance et qui permet de faire ce que fait le mieux la capitalisation, c'est-à-dire permettre aux gens qui ont le plus les moyens et qui en ont la volonté de se bâtir une pension plus élevée, tout en permettant aux gens qui sont plus modestes de ne pas finir dans le dénuement le plus complet, comme on pourrait l'avoir avec un système par capitalisation.
Merci beaucoup, Mehdi, pour votre question. Christelle Thiéfine, on parlait de chiffon rouge tout à l'heure, donc l'âge est un chiffon rouge, mais parfois, quand on prononce le mot capitalisation, c'est aussi un chiffon rouge. Vous en dites quoi ?
Alors pour la CFE-CGC, c'est pas du tout un chiffon rouge. Parce que la preuve, c'est que ça existe dans certaines entreprises, notamment qu'on négociait dans ce qu'on appelle, nous, un troisième volet, c'est-à-dire la retraite supplémentaire. Donc ça existe, ça fait partie du dialogue social, et tant mieux. Donc comme ça existe, on le regarde de près.
C'est aussi là que commence l'inégalité quand même, parce que tout le monde ne travaille pas dans une entreprise qui peut apporter ce genre de choses.
C'est effectivement la problématique de l'égalité, et puis après de pouvoir aussi avoir les moyens de mettre de l'argent par soi-même et personnellement. Ah oui. Donc ça c'est quand même le gros défaut de la retraite par capitalisation. Et ça tombe bien parce que ce matin j'étais au Conseil d'orientation des retraites et ça a été un sujet d'étude de l'OCDE et des autres pays. Et en fait le constat, c'est que l'on fait, c'est c'est une problématique de transition. Si vous voulez passer d'un système à un autre, pendant une génération, mais pendant 40 ans,
c'est ça,
il faut payer double cotisation.
C'était le sens de la question que j'allais vous poser aux uns aux autres. Comment on fait pour que ce soit pas double peine si ça va trop vite, si ça existait, c'est vraiment double peine. On cotise et en plus...
Moi, je voudrais rajouter, sur la retraite par capitalisation, on n'a pas le choix de payer deux fois, puisqu'il faut payer les pensions des retraités, ceux qui sont en retraite, et ceux qui veulent capitaliser pour leur future retraite, il va falloir qu'ils payent. Et donc, le constat, c'est qu'on paye en double pendant 40 ans. Alors, il y a des solutions de qui paye. Ça peut être le salarié. Bon, nous, ça va être un peu bof. Les employeurs, est-ce qu'ils sont prêts à ça? Ou c'est l'État, parfois? Et le constat qu'on a fait ce matin au Conseil d'orientation des retraites, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont revenus en arrière parce que ça nous coûtait trop cher. Alors, soit ça coûtait à l'État, ou en fait, ça coûtait cher dans le pouvoir d'achat et économiquement des pays qui étaient en difficulté. Et donc, on fait un recul par rapport à cette situation.
Et vous, Éric Veil, est-ce que vous le mettez dans votre hôte et dans votre projet, la capitalisation?
Alors, sur le principe, moi, j'y suis favorable, mais madame a très bien expliqué. Tout le problème, c'est la transition. Donc, je crois qu'il faut trouver une sorte de ligne de crête entre ne rien faire sur le sujet, ce qui, je pense, serait une erreur, parce que malgré tout, même à petite dose, la capitalisation permet d'un peu plus financer l'économie, d'un peu améliorer le rendement du système de retraite. Ça serait une première erreur. La deuxième erreur, c'est de croire qu'on peut mettre une dose, un pilier obligatoire très large de capitalisation dans notre système, ce qui est impossible d'un point de vue budgétaire. Entre les deux, il y a peut-être un chemin. Ça supposerait de, par exemple, utiliser des dispositifs existants d'épargne salariale et de les mettre un peu plus sur de l'épargne retraite, par exemple. D'avoir des dispositifs d'incitation fiscale pour abonder plus largement des plans d'épargne retraite. Donc il y a des solutions, mais aucune solution miracle.
Je pose la question parce que quand on parle de capitalisation, la première chose qui vient à l'esprit des gens, et je le vois tomber ici, c'est Enron, c'est fonds de pension Vautour, c'est tout ça. En fait, l'image qu'on a du fonds de pension qui sert à capitaliser, c'est exactement celle-là.
J'aimerais juste tordre le cou justement à cette idée reçue. Historiquement, en France, notre système de retraite est un système par capitalisation. Le premier système obligatoire très large en France date de 1910, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, qui à l'époque, tenez-vous bien, était défendue par Jean Jaurès. Jean Jaurès estimait que la capitalisation était un moyen pour chaque ouvrier de s'émanciper, de constituer sa propre retraite. Donc, c'est un tabou à gauche, ce sujet, depuis la sécurité sociale, qui a pérennisé la répartition. Mais historiquement, en France, même soutenue par la gauche, on a eu de la capitalisation, et dans plein de pays, y compris dans des pays pas du tout ultralibéraux, comme la Suède par exemple, ils ont des doses très substantielles de capitalisation, et ça marche très bien.
Ils ont des doses substantielles, ils ont effectivement aussi des fonds qui peuvent être plus ou moins remis en question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une espèce de système à la française, où on ne va pas sur ce qu'on appelle les fonds vautours, les choses de ce genre-là? On pourrait imaginer ça, mais ou pas, non?
Ça serait le cas, c'est-à-dire si on a un régime obligatoire par capitalisation, on a en fait ce qu'on appelle un régime piloté, c'est-à-dire en début de carrière, les cotisations vont plutôt sur des placements à risque, parce qu'à long terme, c'est ce qui rapporte le plus. Et puis plus on s'approche de la retraite, plus les placements sont plutôt sur des obligations qui sont beaucoup, beaucoup moins risquées. Donc à la fin, on arrive à payer les pensions de retraite avec des meilleurs rendements.
Marc Mignot, vous aurez le mot de la fin, il nous reste une poignée de secondes, allez-y.
Géré par Christelle Thiéfine, en partie. vous savez qu'il y a, des réserves financières pour servir les pensions en cas de crise. Elles sont capitalisées. Et il y a un rendement, je crois, qui est autour de 3%. Donc, on arrive à les gérer de façon très prudente et à ne pas risquer l'argent des gens.
Les fonctionnaires aussi, avec l'ERA.
Les fonctionnaires. Là où, compte tenu des problèmes de transition sur la capitalisation, il n'y a pas de recette miracle, dans le sens où soit on fait quelque chose d'obligatoire pour tout le monde et donc on est obligé de payer deux fois et c'est très difficile de créer ce pilier.
Ah oui.
Soit on le fait de façon optionnelle, mais alors le problème c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de se constituer leur propre capitalisation, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et par ailleurs, les politiques n'arrêtent pas de vous dire à chaque crise financière, ça serait bien que vous puissiez vous sortir votre argent de votre épargne salariale beaucoup plus tôt, de pouvoir en disposer pour consommer. Donc quand les politiques vous disent, on va flécher l'épargne salariale vers l'épargne retraite, moi je dis, dans 3 ans, ils vous diront que vous pourrez le sortir avec une défiscalisation et que ça va remplacer votre salaire parce que vous faites face à une crise.
Merci beaucoup à tous les trois, la conversation n'est pas finie, loin de là, et j'ai envie de dire pourvu que ce soit une grande conversation jusqu'en 2027 et pendant la campagne de 2027. Merci beaucoup à tous pour vos nombreuses questions.